rapidement les intervenantes, il y a Audrey Coudre.
Et sa thèse.
À l'école
de l'étude. Avec M. Collen. D'accord. Il y a Pénélope de Chauffour. Et à Terre à Paris 12. Paris 3. Ok.
Et Donald de Saint-Gou. Qui vient du Collen. Et voilà, je laisse la parole à la maître.
Donc, je voudrais un travail commencé il y a quelques mois. D'abord, du département de mondialisation du Centre Pompidou, puis dans le cadre de mes premières recherches doctorales. Je souhaite tenter de vous dresser un portrait très peu fait jusque-là dans l'histoire de l'histoire des arts d'Afrique, celui des créations en Afrique subsaharienne, des années 1920 aux années 80, pendant la période coloniale et au lendemain des indépendances. Ce sera donc un panorama général et non exhaustif d'un très vaste sujet. Je mettrai en parallèle quelques-unes de ces créations avec le traitement muséal de cette problématique. Mon expérience au Centre Pompidou et la préparation de la nouvelle présentation des collections prévue pour octobre 2013 ont nourri ma réflexion et soulevé de nombreuses questions. Aborder les variations artistiques modernes africaines nous inscrit d'emblée dans une histoire internationale du XXe siècle à un tournant primordial. Époque coloniale et première décennie d'indépendance jouent un rôle crucial dans la définition des arts d'Afrique de ces époques. Parler de modernité en art africain revient à placer ces créations au cœur d'un champ d'interaction et de connexion politique et culturelle entre Afrique et Europe, Afrique et Amérique, Afrique et pays communistes, etc. Les rencontres et croisements opérés à l'époque coloniale ne marquent pas l'arrêt de ces créations, mais leur constante réinvention. Elles prennent un tournant syncrétique fort intéressant et se développent d'appropriation en réinterprétation, individuelle, communautaire ou sous l'égide d'un gouvernement. Les arts d'Afrique ne se limitent donc pas à la simple dichotomie art traditionnel, art contemporain, création relevant du collectif ou de l'individuel, supposant un passage de l'un à l'autre sans transition. Utilisés ici, les concepts d'école et de modernité sont des termes facilitateurs pour comprendre les phénomènes appartenant à une histoire de l'art hors d'Europe. Mais il faut garder en tête de remettre ces termes en question, car ils sont issus d'une histoire de l'art occidentale qui a parfois trop tendance à calquer ses propres découpages historiques et grilles d'analyse sur les autres cultures. Il s'agit donc de considérer réception et appropriation des influences européennes comme processus actif et critique dans un rapport dialogique et international. Ces exemples montreront la variabilité des réponses artistiques africaines à l'histoire, variabilité qui va être comprise dans son hétérogénéité et ses mouvements. Dans ce panorama artistique, ne se sont pas développés que des arts issus d'un académisme. D'autres arts ont tout simplement continué d'exister, comme les artisanats des écoles missionnaires, l'émergence d'un art chrétien, ou encore les arts officiels au service des pouvoirs en Éthiopie ou à Madagascar. Si on garde des supports identiques, mais avec l'insertion de nouvelles thématiques modernes, on peut parler très brièvement de l'art colon avec ses masques guédédés du Nigeria, ou encore d'art funéraire avec les sculptures en ciment, des harpans, ou des cercueils figuratifs de Kanekwa Yogana. Si on considère l'insertion de nouveaux supports, on peut observer qu'il y a quand même une résurgence de certaines thématiques directement issues des traditions, comme l'art guérisseur en Éthiopie, avec Gérard, qui a été sélectionné par le Centre Pompidou, ou encore la reprise de l'art Makonde par Georges Lilanga en Tanzanie, ou des peintures murales, toujours en Tanzanie, par Tingan Tinga, qui passe de la décoration murale au format carré, ou Gila Tendo en République démocratique du Congo, qui procède de la même façon, Lubaki également. Et enfin, ces peintres-conteurs, gardiens d'une histoire et des traditions comme Rudy Boabré en Côte d'Ivoire ou Clément-Marie Biazin en République centrafricaine. Donc même si les pratiques artistiques rituelles, issues de traditions mais évolutives, liées au monde funéraire, aux arts populaire. Connurent à cette époque des évolutions importantes et l'introduction de nouveaux supports et matériaux, d'autres changements plus radicaux s'opèrent par assimilation d'un art pour l'art, soit par interprétation du courant moderniste européen, soit par invention de styles définis comme étant proprement africains et donc porte-parole d'une certaine authenticité. Dès la fin des années 1920, les artistes se regroupent et s'insèrent dans un réseau complexe et vaste de relations. Certains au sein d'écoles missionnaires à portée d'avantages artisanales, d'autres dans des écoles d'art et ateliers rattachés à des universités et souvent initiés par des Européens. Certains artistes sont initiateurs de centres d'art et de workshops dynamiques et novateurs. D'autres encore restent indépendants par choix ou par obligation. Au courant des décennies 1940-1960, les formations artistiques africaines se déploient dans les pays d'Afrique, mais se jouent aussi en Europe et aux États-Unis. Certains artistes reviennent exercer leur art ou enseigner dans leur pays d'origine, quand d'autres poursuivent leur carrière à l'étranger. J'ai identifié deux aires principales. En Afrique francophone, les directives consistaient à suivre le principe de négritude de Senghor, c'est-à-dire à demander aux élèves à faire appel à leur instinct africain, c'est-à-dire leur sens inné de la couleur et du rythme et de leur capacité à projeter leur inspiration et leur imagination sur une toile. En 1951, Pierre Lotz crée un espace, un atelier hangar, dit école de photopoto, à Brazzaville, avec le soutien du gouvernement français. Donc, dans cette école, les premiers peintres qui firent leurs armes, comme François Ibouki ou François Tango, mais également Ossali, Jacques Zigoma ou Nicolas Ondongo, fondent leurs premières armes. Marcel Gauthel le rejoignit par la suite. Les lignes directrices données par Lotz aux étudiants étaient donc de faire appel à ce sens inné, donc de la création et de la projection. L'idée était donc d'atteindre l'achèvement d'un style qui serait purement africain et vraiment authentique. Les deux œuvres sélectionnées par le Centre Pompidou sont les suivantes. Donc on voit donc, un aplat de couleurs, pas de perspective, des personnages en mouvement et des couleurs vives. Donc les thématiques qui reviennent à chaque fois sont des scènes de la vie quotidienne, scènes de marché ou encore animaux et végétaux. En 1961, Pierre Lotz quitte Brazzaville pour Dakar à l'appel de Senghor, alors président du Sénégal, et reprend l'école des Beaux-Arts, qui était aussi dirigée par Iba Ndiaye et Papa Ibratal. Si ce dernier enseigne selon les préceptes de la négritude, Iba Ndiaye, quant à lui, par opposition, quitte Dakar pour rejoindre la France, par contestation aussi, et créer le laboratoire Agit Art par Joe Wakam, où il s'assemble au début des années 70. En République démocratique du Congo, plusieurs écoles voient le jour à partir du début des années 1940, l'école Saint-Luc à Léopoldville, ou l'atelier Maurice Aladef. Mais le plus connu reste le hangar créé par Pierre Romain Desfossés. C'est un atelier très connu qui rejoint l'Académie des Beaux-Arts et Métiers d'Art instaurée par Laurent Mounès en 1951. Donc si chaque artiste comme Bella Sara, Moise Kibwanga ou Pili Pili développe à chaque fois des styles qui leur sont très personnels, les thématiques sont encore toujours les mêmes et en lien avec Poto Poto, des scènes de la vie quotidienne, de la mythologie populaire, animaux et végétaux. Dans l'ère anglophone, le type d'enseignement se différencie un petit peu. C'est-à-dire qu'on leur donne des directives aux étudiants de s'inspirer de leur environnement, mais on leur apporte aussi des connaissances sur ce qui se fait ailleurs, principalement en Europe. Au Nigeria, dès les années 20, avec Kenneth Murray, il y a déjà une formation artistique. Et là, Onabulu et Akinola Lasekan sont généralement reconnus comme des pionniers de la peinture nigériane. Le plus connu d'entre eux est Ben One Move. Par la suite, au début des années 1960, est créé à Oshofo ce qu'on appelle une école, mais qui était couplé à un Barim Bayou Club, donc initié par Guru Lapido et Uli Bayer. Simbari Club était de véritables lieux de rencontres et d'ébullition culturelle et intellectuelle, fréquenté par de jeunes écrivains comme Wole Soyinka, également investi dans la revue Black Orpheus. De nombreux artistes y formèrent, les plus connus, Twin 77, Muraina Uyelami, Adebisi Fatboumi, Gino Buraimo, également Jacob Afolatu, graveur, et Rufus Ogundele. En parallèle se développe la Zaria Art Society. Ce centre d'art pose comme cadre conceptuel, en opposition aux enseignements donnés dans les institutions académiques, une natural synthesis, c'est-à-dire une synthèse entre les techniques et le médium européen et les formes, styles et contenus spécifiques proprement nigérians. Donc ils partent de l'esthétique Ouli et donc opèrent à cette synthèse. Les artistes les plus connus sont Uche Okeke, qui créera plus tard le nom de sa groupe et sera rejoint par Elana Sui et Oru Olive. Youssouf Griot également, Demas Noko et Bruce Nobrak Beya, très connu, fait également partie de la Zaria Art Society. En Ouganda, dès 1937, est mis en place un cursus de formation artistique à l'université de Makerere, à Kampala. Car dès les années 1920, quand tous les directeurs de l'éducation réunis à Dar es Salaam décident que l'éducation artistique supérieure se tiendra en Ouganda. Donc tous les pays d'Afrique de l'Est, tous les artistes des pays d'Afrique de l'Est, ils vont se former en Ouganda. Les cours de Margaret Troyel deviendront donc la formation de toute l'Afrique orientale. Ses élèves les plus connus sont Grégory Maloba, Sam Tiro et Limon Jao, qui sont des peintres et sculpteurs tanzaniens. Avec un passé chargé d'écoles missionnaires et de survivances de traditions culturelles, Margaret Troyel se fixe comme objectif d'établir un nouveau genre pictural, mais inspiré de l'expression préexistante, ce qui ne sera pas le cas de son successeur, Cecil Todd, qui montrera à ses étudiants les formes modernes de l'art occidental. Quoi qu'il en soit, la tension entre art européen et style d'Afrique, leur possible synthèse ou non, donna lieu à de nombreuses rencontres et discussions, ce qui contribua à la grande dynamique artistique d'Afrique orientale et à la création de deux numéros d'une revue, Roho, en 61-62, qui annonce la création de la célèbre revue Transition, toujours éditée aux États-Unis. Au Zimbabwe, ancienne Rhodésie, en 1939 avec le révérend Patterson, et en 1943 avec Tom Bloomfield, mais surtout en 1957 avec Frank McEwen, se créent de nombreux centres culturels. Frank McEwen demande à ses élèves de transcrire la mythologie Shona dans des sculptures en stéatite, aujourd'hui célèbres, car il y a eu de nombreuses expositions en Europe. En parallèle de ces écoles académiques, se développent des centres de recherche, principalement en Afrique du Sud, où dès les années 40, les pionniers de l'art moderne s'inspirent des courants européens et se forment en Europe, tout en gardant un certain attrait pour la sculpture africaine. Dans les années 30, les artistes sud-africains blancs sont à la recherche d'un idiome africain identifiable en peinture, comme Irma Stern par exemple, mais elle n'est pas la seule, même si celle-ci demeure davantage une représentante de l'expressionnisme allemand, Die Brücke. Le centre le plus connu est le Poly Street Art Center, qui voit le jour en 1949 sous la direction de Cecil Scott Mies. Donc ce centre vivra pendant plus d'une décennie et aura une large influence sur les artistes noirs sud-africains. Deux approches se distinguent. L'art dit des township, initié par Gérard Sekoto en 49, avant 49, et repris par Ephraim Gatané et Durant Silali, entre autres. La deuxième approche, qui est privilégiée par Ezrom Legaé, est d'opérer une synthèse entre les conventions figuratives de la sculpture africaine et les idiomes cubistes et expressionnistes européens. D'autres centres voient le jour, comme le Rock Street Center, qui aura une influence très importante dans l'évolution de l'art noir, car s'inscrit au cœur de l'Afrique rurale, le groupe Amalosi ou encore la Michaelis School of Fine Arts, par laquelle passera Peter Clark. Il y a également ces cas particuliers des artistes dits internationaux, comme Ernest Mankoba, qui font leurs premières armes en Afrique du Sud, mais qui vont très vite en Europe, et Mankoba participera au groupe Cobra. Au Soudan, Greenlow, en 1946, initie une formation artistique à Khartoum, la School of Design du Gordon Memorial College, qui change de bâtiment en 1951 pour le Khartoum Technical Institute. Il s'en dissocie en 1971 et devient la School of Fine and Applied Art. La génération pionnière est constituée pour la plupart d'artistes formés à l'étranger, comme Ibrahim El-Salahi, ou encore Ahmed Chibrein, une femme peintre, Ishaq Kamala, ou Amir Noor. L'histoire des arts éthiopiens est particulièrement riche, car comme on le sait, la tradition de peinture est très ancienne. De plus, le gouvernement éthiopien a très tôt soutenu la création et les artistes. En 1958, Alif Elegé-Selam dirige la toute nouvelle école des beaux-arts d'Addis Abeba. Afewerk Tekle, Djibré Christos Desta ou le célèbre Skender Boudossian en furent les figures de proue et les principaux acteurs d'influence pour la formation des générations d'artistes à venir. Les artistes éthiopiens comme soudanais sont parvenus à créer un style original à mi-chemin entre les courants modernistes européens et les expressions plastiques et formelles africaines et islamiques. Évidemment, avec la révolution socialiste de 1974, les thématiques changent considérablement. La création doit alors glorifier le combat du peuple et le triomphe de la révolution. Au Mozambique, dès le début des années 30, le Nucleo de Arte à Lourenço Marques, aujourd'hui Maputo, regroupe de nombreux peintres et intellectuels, dont Pancho Guedes, qui deviendra rapidement le mécène du très célèbre Malinte Malangatana. Celui-ci fut très vite et de nombreuses fois exposé en Afrique surtout, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie. Je ne pourrais pas faire un panorama des arts sans parler brièvement de photographie, qui se développe surtout au courant des années 1950 et 60, avec Malik Sidibé et Seydou Keita, que vous connaissez très bien, mais aussi le Nigérian Okaye Ujikere, Jean de Para à Kinshasa, ou encore les Sud-Africains David Goldblatt, Jürgen Schadberg, Peter Magubane ou Bob Gossani, sans oublier le Mozambicain Ricardo Rangel. Nous venons donc d'explorer un échantillonnage varié des différents types de productions dites modernes en Afrique. D'un point de vue muséal français, les arts modernes d'Afrique sont une zone d'ombre quasi complète. L'Afrique reste le continent le moins bien représenté, ni au musée du Quai Branly, ni au musée national d'art moderne, qui ne possède que de quelques rares œuvres de cette période. Les peintures et sculptures, preuve d'un renouveau et d'un tournant capital dans l'histoire des arts d'Afrique, semblent trouver leur place. Pourtant, les États-Unis et l'Angleterre traitent déjà de cette question. La France en retard, sans vouloir le rattraper, et enfin prendre en compte les modernités autres qu'occidentales. Mettre en place la nouvelle présentation des collections pour le centre Pompidou n'a pas été chose simple avec aussi peu d'œuvres. tellement peu d'œuvres qu'il serait même question de présenter une nouvelle fois les sculptures en ciment du Nigeria, vestige de l'exposition Magicien de la Terre il y a déjà 24 ans. Pourtant, comme j'ai tenté de vous le montrer, ce ne sont pas les créations les plus signifiantes pour un échantillonnage objectif. Avec Otopoto, il faut cependant reconnaître qu'exposer les peintures qui montrent ce qui se faisait dans les écoles d'art francophones pendant l'époque coloniale est une nouveauté et une prise de risque, surtout pour la France, frileuse de donner à voir des témoins de sa colonisation. Mais il serait peut-être aussi temps de se tourner vers les Afriques anglophones et lusophones. Ceci dit, il est évident qu'un musée raconte d'autres histoires que l'histoire officielle. Il nous narre l'évolution de la voie artistique influencée par les idéologies et imaginaires des collectionneurs et acheteurs de l'époque. Il était alors question de faire correspondre des œuvres venues d'Afrique avec les idées que les Européens s'en faisaient à l'époque. Il fallait qu'elle serve cette vision, celle d'une Afrique authentique, c'est-à-dire rituelle, artisanale et pittoresque, une Afrique en dehors de tout contact avec l'extérieur, une Afrique exotique. Vision malheureusement perpétuée par le marché de l'art. Il est donc grand temps de remettre en question cette façon de voir l'Afrique et de conceptualiser ses arts, surtout que depuis le Magicien de la Terre, les études critiques et les réflexions internationales ont été nombreuses. L'espace muséal français ne pouvait donc plus se tenir en dehors de ces débats. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup d'avoir respecté le temps et pour une petite image.
Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. En fait, moi, je vais intervenir sous forme plutôt de témoignage dans ce panel, puisque je ne présente pas mes travaux de thèse directement. En fait, moi, je travaille, je suis en études théâtrales, et je fais une thèse sur l'œuvre de Kossi Efoui et son aspect marionnettique. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous présenter le travail en fait plus large de mon laboratoire de recherche, parce que suite à l'appel à communication qu'avaient diffusé les organisateurs de ces journées, j'avais trouvé intéressant de livrer justement un témoignage de chercheuse et les difficultés, ou en tout cas les problématiques liées à mon champ de recherche et donc qui est le mien et celui de mes collaborateurs dans ce laboratoire que je vais donc vous présenter dans un premier temps. Je vais vous présenter aussi un petit peu, comme l'a fait Audrey Coudre, une période historique qui recouvre justement notre champ de recherche, avant de vous parler, donc plus sous forme de témoignages, d'impressions, de difficultés, de questions qui peuvent surgir lors de nos différentes interventions, justement dans des colloques et des journées d'études. Donc le laboratoire auquel j'appartiens s'appelle le CFEA, donc Scène francophone et écriture de l'altérité pour le sigle, et il est donc rattaché à l'Institut de recherche en études théâtrales. Il fait partie d'un vaste domaine dans l'Institut de recherche en études théâtrales qui s'intéresse plus particulièrement aux écritures contemporaines, même si, comme vous allez le voir, on s'intéresse aux expressions dramatiques en Afrique noire francophone depuis les premières traces qu'on en a, et là-dessus je rejoins aussi les propos d'Audrey Coudre qui sont finalement des traces par médiation et donc une image construite par médiation, d'où une vision fantasmée qui conduit à l'exotisme, une des grandes problématiques que nous devons affronter pour légitimer notre domaine de recherche, d'une part auprès des collègues en études théâtrales, ce qui est mon cas, mais également d'autres problématiques qui se posent par rapport aux auteurs sur lesquels on travaille, notamment en ce moment, enfin ces années-ci, qui posent problème ou qui questionnent les africanistes eux-mêmes. Donc voilà, le grand cycle de recherche qui est en cours au laboratoire
conservatoire CFLA se nomme Dramaturgie du marronnage, le corps théâtre du drame, et se focalise sur des questions liées à la subversion et à la mémoire. Donc c'est un cycle de recherche qui interroge le corps comme territoire, espace d'écriture, de mémoire, de dépassement et de reconquête identitaire, et qui fait suite à un cycle qui avait été entrepris il y a une dizaine d'années quand le laboratoire avait été fondé, et qui était consacré au corps texte, abordé comme un champ de bataille, autant champ agricole qu'un champ chanté et qu'un chantier. Donc pour faire une brève histoire justement de la période de ces dramaturgies donc, à laquelle on s'intéresse, ce que nous savons de l'histoire donc, du théâtre africain commence avec les témoignages d'explorateurs, donc c'est là où je rejoins André Coudre, et non par des traces d'un point de vue interne à cette histoire, donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'images construites par médiation. Depuis l'esclavage, l'annihilation suprême ne laissant à l'esclave que son imagination en possession, puis sous la colonisation, l'enjeu a été avant tout l'éradication des pratiques autochtones en faveur de l'apprentissage et de l'implantation des valeurs occidentales. La culture et les pratiques théâtrales n'échapperont pas à ce formatage absolu. Les premières expressions sont construites par des canons théâtraux occidentaux, notamment à travers l'implantation des écoles telles que l'école Ponty. La diffusion concerne exclusivement les classiques européens. Post-indépendance, le mouvement de la négritude apparaît. Bon, je vais très vite, hein, c'est vraiment pour condenser le propos, hein, parce qu'évidemment, c'est un peu difficile de faire des... Enfin, il n'est pas du tout question ici de faire des cases, donc j'espère que vous ne prendrez pas au pied de la lettre cet échantillonnage historique. Post-indépendance, le mouvement de la négritude apparaît, et il s'agit alors là de rassembler des écrivains noirs francophones dont les principales figures sont Césaire pour les Antilles, et qui va participer justement à cette diaspora de la négritude qui va faire aussi écho aux problématiques que j'évoquerai tout à l'heure, Sangor et Damas autour de l'anticolonialisme et de la revendication de l'identité noire et de sa culture face à une francité perçue comme oppressante et vue comme un instrument de l'admiration coloniale française. Durant cette période, les dramaturges s'attellent à la construction de héros nationaux tels que Patrice Lumumba, Chaka Zulu, Béhanzin, El Bourri, le roi Christophe, qui représentent la première glorification, mythification, ayant pour but de concrétiser les réalités panafricaines et d'enthousiasmer le monde noir à la construction identitaire à travers la dignité et la fierté, et non plus en laissant véhiculer des idées de soumission à l'empire colonial. À partir des années 70, on commence à dépasser cet objectif de glorification pour présenter l'urgence de la désillusion de ces années-là, la désillusion politique et sociale, et donc c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs période du théâtre de la désillusion. Cette entreprise d'expression d'une réalité sociopolitique engage les attentes du théâtre à chercher une voie créatrice qui leur soit propre, mais le vrai bouleversement arrivera dans les années 80, représentant un tournant esthétique qui s'appuie sur l'idée qu'affirmer son indépendance suppose justement la recherche d'une dramaturgie qui assume une rupture manifeste avec le modèle occidental. Et donc à cette période-là, dans un souci de retour à une forme purement africaine, le théâtre scénique se mêle à des rituels ethnologiques afin d'insuffler un renouveau tant aux plus anciennes pratiques qu'au théâtre africain tel qu'on le connaît depuis la colonisation. C'est la période de la griotique et du côté bas, par exemple, une tentative d'affirmer une esthétique propre en théâtralisant des rituels ethniques. Parallèlement, un auteur congolais annonce la rupture esthétique des années à venir, donc il s'agit de Sonny Laboutansi, qui explore davantage l'écriture et recherche une dramaturgie subversive où la langue est court-circuitée par des sens qui la dépassent. Il invente des mots, structure une syntaxe inouïe et violente la langue. Les thématiques sont ici sociales, politiques, mais on s'en prend des interrogations plus larges et une quête identitaire explicitement exposée, notamment à travers justement la construction dramaturgique. Donc ce rapport se lit dans son écriture pour une des premières fois on n'a plus peur des mots et il utilise donc des images chocs et un vocabulaire plus cru. Cependant, les pièces de Sonny Laboutansi sont quand même assez construites sur un modèle assez sur un canon assez classique
niveau théâtre. Donc il y a des scènes, des rebondissements, un nœud, un dénouement, enfin, ouais. Ce qu'on ne retrouvera pas dans l'extrême contemporain qui va marquer ce nouveau virage qui là arrive dans les années 90 et qui marque du moins la naissance d'un conflit entre l'Afrique et l'Occident à travers un public européen. Se délectant d'un théâtre africain les faisant voyager, donc c'est aussi ce dont parlait André Coudre dans toujours la question de l'exotisation. La diffusion donc, des premières pièces africaines en Europe entraîne une image caricaturale des réalités du continent et aura vite fait d'enfermer le théâtre dans un certain genre, satisfaisant la curiosité et le dépaysement des publics. Et c'est la naissance des polémiques autour de l'africanité et des questions liées au processus d'exotisation. Les années 90 représentent une rupture en ce sens, puisque de la bouche des auteurs eux-mêmes, le théâtre africain ne sera plus là où on l'attend. Enfant terrible des indépendances, les auteurs dont on parle, donc qui sont Kossi Efoui, Kofi Kwaoulé, Kaya Makere, José Plia, Marcel Zang et plus récemment Dieudonné Nyamugna, Gustave Akakpo, donc ce sont des enfants terribles des indépendances de par leur génération, donc leur année de naissance, émerge donc une par le biais du concours RFI, ce sera le cas notamment donc de Kossi Efoui, donc concours RFI qui est créé en 1966 et qui permet d'être publié et diffusé à l'international et qui offre une bourse d'études et d'écriture en France. Donc il faut savoir que certains propos que je vais développer sont de moins en moins d'actualité grâce à Internet, qui permet justement une circulation des œuvres et un contact entre les différentes sphères économiques, culturelles et littéraires, qui peut permettre à des auteurs d'avoir une visibilité à l'international et à des endroits où il y a une économie du livre, une économie de la culture, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays africains. Et c'était pas il y a 20 ans, ça se passait pas du tout comme ça. Donc RFI était vraiment RFI et le Festival des Francophonies à Limoges étaient vraiment les deux structures partenaires d'ailleurs qui permettaient d'avoir cette visibilité. Donc le tournant le plus remarquable s'effectue avec la pièce de Kossi Efoui, Le Carrefour, qui remporte en 89 le prix donc RFI. Et là, c'est un théâtre qui fonctionne de symbole en métaphore et qui a une portée philosophique hautement rattachée au monde contemporain. Une pièce où l'Afrique n'est pas explicitement présente, et où l'enjeu n'est autre que l'expression d'une forme artistique et théâtrale personnelle, comme elle vient dans l'urgence des choses à dire et de la crise identitaire. Une pièce qui valut à son auteur d'être aussitôt caractérisée de traître par les critiques occidentales, telles que Françoise Gourou notamment, qui criait à l'imposture du sujet africain, qui serait en quelque sorte dénaturé, car désafricanisé, par l'absence de caractéristiques textuelles et thématiques renvoyant au continent. Donc j'évoquais tout à l'heure ce cycle de recherche dramaturgie du marronnage pour expliquer ce terme. Donc le marronnage se définit historiquement comme l'état d'un esclave fugitif ayant déserté la plantation. C'est pour ça que notre laboratoire s'intéresse à tout ce qui est de l'ordre de la subversion et qui est en même temps lié à la mémoire, puisque là on retrouve la trace de l'histoire de l'esclavage notamment. Donc ce fut un puissant mode de résistance que les esclaves noirs adoptèrent très tôt dans toutes les colonies esclavagistes. Les marrons s'enfuyaient dans les montagnes où ils trouvaient refuge. C'est une échappée procédant par un retour forcé à une certaine forme de vie sauvage afin de rester caché et de ne pas être inquiété par les esclavagistes. Si le marron ne s'enfuyait pas dans les montagnes, sa fuite le contraignait à vivre caché et à ruser, proche de la plantation, unique moyen de se ravitailler, la société autochtone vivant hors de la plantation, marginalisant cet esclave marron. Aujourd'hui, le terme est rattaché à la ruse, à une forme d'échappée permettant de sortir d'un espace clos, et c'est exactement le cas des auteurs dont je vous parle, qui sont obligés de sortir de cet espace clos qu'est l'exotisation et l'africanité. Donc la libération n'est donc ici pas d'ordre physique, mais d'ordre psychologique et mental. De plus, ce sont des auteurs qui sont définis par la transculturalité, donc qui a été conceptualisée par Wolfgang Welsch, je suis désolée, je ne parle pas allemand, donc désolée d'écorcher son nom, qu'il définit lui-même comme un design de réseau autonome. Donc c'est un principe dynamique, car auto-influent, chaque sphère, en déplaçant son identité première, se nourrit d'autres sphères. Et plus que l'interculturalité, il s'agit vraiment là de reconnaître un métissage culturel qui va de soi et qui n'est même pas à interroger. Donc il s'agit d'une sorte de métissage inexorable, concept particulièrement pertinent dans nos sociétés contemporaines à l'ère de la mondialisation et de la post-colonie. Les populations africaines, de par l'histoire de leur pays, au pluriel, sont en quelque sorte les archétypes des sociétés transculturelles qui portent l'idée d'identité culturelle en mouvement, car en cours permanent de construction au gré des contacts inévitables avec l'extérieur. Mais cette idée de transculturalité n'est pas à confondre avec une entreprise de phagocytose des cultures initiales ou avec une volonté de nier ses origines géographiques. Tout le combat est là. Il s'agit d'affirmer une identité plurielle inhérente qui n'est pas une volonté explicite de se détourner du patrimoine en allant vers d'autres sources. Je vais maintenant vous parler comme je l'avais dit, j'avais la seconde partie de mon intervention qui est plus de l'ordre du témoignage. Donc il nous est fréquemment reproché de focaliser nos travaux sur des auteurs qui ne vivent plus en Afrique. Une polémique est alors née autour d'une différence que nous n'ayons pas entre le théâtre d'Afrique, donc d'origine esthétique, thématique ou via les nationalités des auteurs, et le théâtre en Afrique qui se pratique dans les différents pays du continent. Il s'agit de notre part d'un choix scientifique qui se justifie en différents points qu'il me semble important d'aborder ici. Par ailleurs, les problématiques liées à l'africanité et à l'exotisation et la négation de l'historicité du continent entraînent elles-mêmes une grande ignorance de la part de l'opinion commune qui implique donc de grandes difficultés à légitimer notre champ de recherche, ne serait-ce qu'auprès des collègues d'études théâtrales, souvent persuadés que le théâtre d'Afrique est indissociable du folklore africain. Il s'agit donc d'un champ qu'il faut sans cesse contextualiser, expliquer pourquoi justement est-ce que ces écritures peuvent être abordées comme des écritures appartenant au domaine des écritures contemporaines non spécifiées géographiquement, afin donc de sortir de son enclos géographique avant d'arriver à l'esthétique des textes, donc pour justement s'intéresser à la façon dont ces textes sont écrits, ce qui est quand même primordial quand on parle de théâtre, c'est la représentation mais aussi l'étude dramaturgique. Donc cette question de l'exil volontaire ou subi est très importante puisqu'elle entraîne ces différentes polémiques et elle est liée, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la circulation des œuvres et des auteurs, l'économie et l'absence de statut professionnel des gens de théâtre en Afrique noire francophone est très importante, surtout en dehors des capitales. C'est vrai qu'il y a des écoles, mais pour le théâtre, c'est encore moins le cas que pour l'art. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas de statut professionnel, ou très peu. Ce qui pousse logiquement les acteurs du théâtre à aller vers des espaces où il existe une économie, un statut professionnel de la culture théâtrale. Et il est important surtout aussi de souligner que ces mêmes auteurs, même s'ils ont quitté le continent pour des raisons économiques, professionnelles, leurs textes sont malgré tout en permanence joués dans les festivals en Afrique. Donc notre objet d'étude, s'il vise à sortir les écritures du carcan identitaire induit par la réception occidentale, qui est malgré tout le pivot de l'économie de ces écritures, souvent en attente d'africanité, a pour but donc d'inscrire ces auteurs dans un paysage théâtral contemporain mondial, car leur dynamique dramaturgique et les formes de leurs écritures répondent à l'avènement du théâtre moderne qui bouleverse les canons dramatiques ancestraux. Peut-être je vais passer là-dessus parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. 6 minutes. Ah d'accord, ça va. Personnellement, on m'a souvent fait la remarque après certaines interventions, justement, on me dit, vous venez dans une journée africaniste et vous parlez d'auteurs qui ne sont plus retournés en Afrique depuis 20 ans. Certainement, vous ne connaissez pas du tout les pratiques théâtrales en Afrique, et donc c'est faux, je les connais, et je m'y intéresse énormément. C'est un choix scientifique, et de plus, je note que force est de constater que dans de nombreux pays, les artistes originaires et établis depuis toujours sur leur territoire produisent des textes qu'il est difficile d'aborder pour leur théâtralité contemporaine et qu'on va plutôt étudier de par leur aspect sociologique, linguistique, Il y a deux axes majeurs et récurrents dans ces productions. C'est d'une part la dichotomie tradition et modernité, et d'autre part des questions liées aux problématiques migratoires. Mais au niveau de la forme dramatique, il y a très peu d'inventivité, et ça s'explique toujours par ces questions économiques et de statut professionnel que j'évoquais tout à l'heure, et aussi par l'absence de possibilité de confronter son point de vue, puisqu'il n'y a pas d'école, il y a très peu, maintenant grâce à Internet, il y a un petit peu des vidéos, donc on peut voir du théâtre, mais il y a très peu aussi d'autres formes théâtrales qui viennent sur place pour être représentées. Et donc il y a comme une forme aussi qui végète sans pouvoir se nourrir de nouveautés. Donc ce, en dehors des stages qui durent souvent 5 jours, qui sont organisés majoritairement par les instituts français sur place. Sur cette question de l'africanité et de l'exotisation, les dynamiques postcoloniales favorisent le stéréotype dramaturgique et l'industrie du spectacle occidental y participe. Donc c'est l'épineuse question de la réception qui revient. Hérité des problématiques coloniales, l'Occident s'est forgé une vision fantasmée de l'Afrique qui colle aujourd'hui à la peau des créateurs et qui conduit les lecteurs-spectateurs à un désir de retrouver des éléments typiquement africains dans leur production. L'industrie du spectacle en France, répondant inévitablement aux attentes des publics avec qui elle s'inscrit logiquement dans une relation de dépendance économique, favorise alors les productions estampillées du sceau de l'africanité. Actuellement, il est particulièrement intéressant d'observer l'émergence d'auteurs tels que Dieudonné Nyangouna, avec une pièce comme Le Socle des Vertiges, Gustave Akakpo, avec Chiche l'Afrique, ou encore Léonora Miano, qui a lancé le mouvement afropéen, à travers notamment des textes comme Écrit pour la parole ou Habiter la frontière, qui sont en plus des essais. Qui ont été mis en scène en fait, qui dénoncent et traitent explicitement de l'histoire coloniale et postcoloniale, des méfaits des pays du Nord sur les pays du Sud et de l'injustice des discriminations raciales dans les sociétés occidentales. Les publics, dans un élan de mea culpa sociétal, accompagné par la récurrence du regard misérabiliste des médias envers le continent africain, encouragent et adhèrent à ces expressions directes qui ne sont pourtant qu'un reflet de la littérature contemporaine d'Afrique noire francophone, qu'elle soit écrite depuis l'Afrique ou bien d'ailleurs, et qui souvent cherchent à s'extraire de ces problématiques coloniales et postcoloniales. Enfin, et pour terminer, mon dernier point est lié à la francophonie, tous les concepts liés à la francophonie, je les maîtrise très peu, mais c'était aussi important d'en parler par rapport à cette question de la place du chercheur et des questions qui se posent quand on fait des recherches dans ce champ. Ces questions liées à la francophonie, cette fois, nous ne bataillons pas pour légitimer notre champ, mais nous nous interrogeons nous-mêmes sur la légitimité cet usage du mot francophone et sur cet espace en lui-même tel qu'il est défini, dans ses utilisations médiatiques, économiques et ontologiques. À quoi renvoie exactement l'espace francophone? N'est-il pas une énième pirouette pour ne pas éloigner l'Afrique de son enclos? Voilà, ça c'est une question aussi récurrente. Je vous remercie.
Merci beaucoup et je laisse la parole au dernier intervenant.
Je vous remercie. Je vais aborder ma communication. En revanche, c'est quelque chose que je vais garder en mémoire. Une erreur qui a été commise sur les titres avant que je ne demande à ce qu'on le change. Donc, au lieu de mettre le titre tel qu'il est, du vieux nègre au roi de Kael, quelles évolutions ou révolutions pour les représentations de la langue française en francographie africaine? Les organisateurs ont d'abord mis quelles évolutions ou révolutions pour les représentations de la langue française en francophonie africaine. Donc,
je vous excuse. C'est vous qui me succédez.
Non, non, c'est pas. Donc, je vais peut-être partir de là pour montrer que c'est le fait de la phonie et la graphie. Cette différence, ce n'est pas simplement sur le plan de la substance de l'expression, c'est-à-dire le son, phonie, et la graphie, écriture. Donc il y a plusieurs implications sur le fait que ces deux éléments soient transmis à l'écrit. Donc on garde cela en mémoire. Donc presque partout en Afrique, l'heure est au bilan à travers la célébration de ce qu'on appelle les cinquantenaires des indépendances. Aussi serait-il judicieux d'établir l'état des lieux d'un sujet qui, à lui tout seul, en dit long sur les dynamiques et les mutations tant internes qu'externes au continent et à sa littérature. Il s'agit des représentations des mystiques. Dynamiques internes et externes parce que la présence du thème au papus non limite, nous permettons provisoirement d'appeler ça un thème parce que ça paraît après plus comme un motif présent dans plusieurs thèmes. Donc, parce que le thème pourrait déclencher d'autres représentations chez les Noirs africains d'une part. Dans ce sens que les Noirs ordinaires n'auraient pas encore fait le deuil de la séquelle coloniale, qu'est la langue, et que l'usage de ces derniers demeure d'une amertume générale. Et d'autre part, elle informerait certains profanes africains, non universitaires notamment, qui sont quand même encore tous marqués par le français. Donc, historiens contestés, les critiques préjudisent irrévocablement l'évolution du français selon trois âges de la crise linguistique en Afrique. Donc, la première crise, c'est au moment de l'intrusion du français, avec l'école qui coupe l'enfant du lien familial. Donc, il y a une opposition au français, une résistance. Après, on commence à se dire, mais pourquoi pas, puisque ce français donne un statut dans la société. Et du côté des écrivains, le troisième âge, c'est qui s'assimile un peu au deuxième, c'est de penser que le français est incapable de transmettre notre culture. Et donc, ça se ressent dans la littérature. Donc, pour recentrer le problème dans le cadre de ce colloque qui vise à questionner les savoirs relatifs au continent africain et les implications scientifiques qui en découlent, nous poserons préalablement, que même si notre contribution s'articule autour de la fiction littéraire et des activités parallèles, son objet ne manque pas de déborder le cadre littéraire ou impliquer la réalité sociale. Et là, c'est pour une raison principale. Donc, j'ai intitulé ça l'ubiquité de l'écristorien. Donc, écristorien, c'est un mot que j'ai forgé peut-être par fantaisie. Un mot valise, formé des deux premières syllabes d'écrivain et des trois syllabes d'historien. Donc, pour montrer le fait que l'écrivain africain, lui, se réclame d'être historien. Les raisons d'un tel emboîtement découlent de postulats liés à la structuration discursive de la francographie africaine et qui font qu'elle définisse sa propre trajectoire en matière de motifs spécifiques sur le plan de la littérarité, c'est-à-dire des axes d'appréciation de valeur de l'objet littéraire. Premièrement, comme nous l'avons dit, la critique dans sa adaptation des contenus littéraires l'applique de très près au vécu social réel des Africains, faisant du texte un discours d'exorcisation inconditionnelle des réalités vécues par les peuples et de l'écrivain, et faisant de l'écrivain un historien. C'est donc légitimement que plusieurs critiques posent préalablement que, je cite, « le lien entre littérature et histoire dans les pays émergents est comme un cordon ombilical ». Pour tous, l'écrivain n'est autre chose qu'un observateur qui rassemble les faits comme l'historien. Il écoute le peuple comme l'anthropologue. Il étudie les langues comme le linguiste. Mais en plus de cette démarche transdisciplinaire, il construit et propose une vérité nouvelle à partir du peuple dont il fait l'objet. Donc, combien sont-ils d'ailleurs des textes à prendre comme cadre fictionnel des noms du lieu réel, des gentilés ou des ethnonymes patents, ou encore des événements facilement repérables dans l'histoire. Ou même opérer en parallèle texte des commentaires ou analyses visant à éclairer le référent de leur récit à l'aune de l'évolution historique et scientifique. Ce facteur pourrait s'expliquer par un trait génétique de la littérature africaine, en l'occurrence le fait que, depuis la colonisation, elle soit l'instance privilégiée, sinon la seule à permettre l'expression des aspirations des peuples à travers une représentation dynamique sociopolitique. Ainsi, la presse, la radio, bref, les médias ou encore les autres instances d'association, depuis la colonisation jusqu'à l'avènement des indépendances, ne représenterait pas un terrain favorable pour l'expression des idées. Restait donc désormais à saturer le seul instrument qui subsistait, parce que même contrôlé, il donnait une certaine marge de manœuvre par un potentiel encodage et par les clauses inhérentes aux genres littéraires, qui stipulent dans tous les cas, quels que soient les degrés de rapprochement à être établis avec la réalité, que, ça on le sait, toute ressemblance avec les noms de personnes ou de lieux existants est purement fortuite, ça c'est ce que tout le monde dit. Deuxièmement, deuxième facteur, qui est lié au premier facteur, la littérature aurait d'autant plus de force qu'elle se manifesterait sous une forme collective, non individuelle. Tout espace place pour l'exposer plus longuement, posons immédiatement la conséquence d'une telle caractéristique pour notre sujet. Sans que le problème en vienne à se poser véritablement en termes de plagiat, la graphie a un caractère collectif viscéral qui s'étend même aux implications esthétiques et qui démontre sa qualité d'archive en son rapport à la mémoire d'une énonciation qui se place dans la filiation d'autres et qui prétend à un certain type de réemploi. Plus concrètement, on assiste sans culpabilité ni inquiétude judiciaire à une remarquable imitation des anciens, dont Menguenot pense qu'elle constitue un des critères essentiels de la légitimité littéraire. Même les écrivains les plus jeunes, qui ont grandi en France, qui ne maîtrisent pas la langue maternelle, ou qui ont le français pour langue maternelle, et qui ont écrit des romans récents, jugent judicieux d'acquérir une légitimité littéraire en faisant de la langue un sujet majeur de leur roman. Tout se passe comme si l'écrivain qui se cherche doit scrupuleusement parcourir l'archive littéraire en matière de présentation linguistique pour y sélectionner les signes susceptibles de valoriser ou de légitimer sa propre démarche. Comme si les questions linguistiques étaient le site où s'édifie ce panthéon de positionnement dans la légende. Donc, il s'ensuit un phénomène de boule de neige, vu que du côté de la critique, les analyses ne manquent pas qui décryptent et exaltent la manière dont tel ou tel écrivain problématise la langue. Parfois, pour se montrer plus habilité que quiconque à traiter des représentations langagières sur la scène heuristique, certains universitaires marquent leur texte du sceau de leur fonction d'écrivain. Donc, il y en a plusieurs, je vais vous passer des exemples. Donc, référence à fonction d'écrivain à celle d'université sur la scène heuristique, le spécialiste de la littérature, il s'agit de Georges Engel, dont j'ai un peu tu l'exemple. C'est parfaitement que, même quand elle parvient à compter parmi ses apôtres des universités pures, la critique est plutôt révérencieuse à l'égard des propos tenus par les écrivains et considérés comme paroles d'évangile. Donc, l'examen croisé de champs du roman émis à des époques distinctes attestera combien la question linguistique demeure une archive courante, dans la mesure où elle définit massivement quelques systèmes généraux de la formation et de la transformation des énoncés. Ce cadre esthétique qui, entre la tradition et l'oubli, fait apparaître les règles d'une pratique qui permet aux énoncés à la fois de subsister et de se modifier régulièrement. Donc, troisième facteur qui fasse à ce que les représentations de la langue dans les romans soient très vite assimilées à celles courantes, à francophonie. Donc, troisième facteur, c'est que menacé d'extinction avant même sa naissance, et loin d'être une génération spontanée, la graphie en Afrique serait pleinement née dans la prescription, en affirmation stratégique de la présence du noir à la logosphère. Les multiples préfaces, majoritairement réalisées par des non-littéraires, sociologues, anthropologues, politologues, dont la plus célèbre, celle de Sartre à Senghor, le démontre à suffisance. Et la représentation linguistique, autant pour les écrivains eux-mêmes que pour les peuples africains, serait le terrain privilégié pour l'expression d'une telle cause. Quatrième et dernier facteur qui explique le télescopage incessant entre les contenus de fiction et la réalité, le fait qu'écrivains et critiques jouent bien souvent les mêmes rôles sur le continent. Que d'écrivains sur le continent qui sont à la fois des universitaires et des critiques. Et même s'ils ne sont pas universitaires, ce n'est pas grave, ils se font eux-mêmes une plage dans leur parallèle texte pour commenter calmement la portée de leur labeur. Une raison à cela serait que les artistes manqueraient de critiques pour promouvoir la stylistique de leur œuvre, ce qui les poserait à monter eux-mêmes au créneau pour analyser et commenter leur texte. Mais alors dans le sens qu'ils veulent et non plus dans celui de l'objectivité qui requiert la distance. À cela, les gardiens de l'activité critique sur l'œuvre africaine pourraient bien évidemment répliquer au regard de la modeste activité scientifique qu'ils déplorent. Cette citation est d'Ambroise Fromme. Si les écrivains ne commandent pas eux-mêmes leurs œuvres, qui le fera pour eux? Vu que la littérature africaine, qu'on dit pourtant sienne, de plus en plus naît, grandit, s'épanouit et se canonise sous d'autres cieux. Donc ce rapport est très décisif pour conduire notre travail, car c'est celui qui nous autorise pleinement à scruter de près aussi bien les romans que les analyses de romans. Notre corpus sera donc constitué d'œuvres de fiction et d'œuvres critiques. Ces faits découlant, comme déjà précisé, entre autres facteurs, d'un trait de notre littérature que nous ne saurions rappeler ici que de façon sentencieuse. Entre la fonction d'auteur et celle de critique, le professionnel de la littérature africaine agit, là le cite Mengono, comme celui qui est incapable de se fixer dans une utopie, comme celui qui n'est pas à sa place là où il est, qui va de place en place sans vouloir se fixer, qui ne trouve pas de place ou qui ne trouve pas sa place. Ce n'est qu'après que nous établirons certaines conclusions sur la pesée du thème dans la littérature. Donc, deuxième point, en vertu du phénomène linguistique qui est seulement hypothèse. Donc, je vais passer d'une définition de représentation linguistique. J'imagine que nous savons tout ce que c'est, les images, la façon dont on se représente la langue, certains éléments de la langue, le statut de langue, et ainsi de suite. Est-ce que le français a un apport bénéfique pour nous? Est-ce que c'est au moins une oppression d'aliénation et autres? Donc, partout en francographie, les écrivains répercutent cette perception qui anime les débats et donne la matière à plusieurs mémoires et thèses soutenues dans nos universités. Je rappelle qu'il y a tellement de mémoires et de thèses qui sont soutenues au Cameroun ou bien en Afrique sur les représentations linguistiques, le problème de la langue française dans les romans. Créolisation, négrification, africanisation, indigénisation, ou encore invention, appropriation, hybridation, métissage culturel, imaginaire linguistique, dynamique des langues, interlangues. Autant de focalisations issues des délimitations géographiques, chronologiques, idéologiques et ou des perspectives méthodologico-théoriques. En clair, nous sommes au cœur d'un thème qui s'est trop élevé dit à le vent en poupe. Donc, je vais immédiatement passer au corpus pour connaître encore une fois de plus que peut-être le choix du titre ou bien du corpus est un peu fantaisiste. J'ai choisi juxtaposer le vieux nègre et le roi des Kaël. Le vieux nègre date de 1956, le vieux nègre et la médaille. Ce n'est pas le premier roman colonial. Le roi des Kaël n'est pas le dernier roman post-colonial puisqu'il est publié en 2009. Mais j'ai juxtaposé ça simplement parce que le lexique nègre et celui de roi s'opposaient dans la mesure où nègre renvoyait à quelque chose de bas et le roi renvoyait à la dignité. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le roi de Kaël, c'est que le roi de Kaël, qui a été écrit par Tienno Munidembo, bien qu'il soit publié en 2009, fait un retour sur les premiers contacts du noir avec le blanc, en ramenant l'histoire de Olivier de Sandéval. Donc c'est un choix que l'écrivain guinéen a fait de revenir sur les premiers contacts. Donc en quelque sorte, il viole cette périodisation de la critique. Bon, je vais immédiatement parler de la méthode pour ne pas que ça paraisse comme un travail c'était manifeste. Donc j'ai choisi de me pencher sur une approche quantitative et variationnelle. Il s'agit de la stylistique sérielle de Georges Moulinier. Bien, pour évaluer judicieusement la présence du thème dans la suite des romans et travaux critiques depuis l'époque coloniale, nous avons choisi d'évaluer, pour ne pas non plus profaner la valeur stylistique des faits esthétiques, les variations artistiques des éléments relatifs aux présentations linguistiques. Autrement dit, sans prétendre que tous les romans, c'est-à-dire les uns et les autres sans exception, tous les romans africains traitent du sujet de la même façon, sans transformation esthétique notable, nous verrons comment les marquages, les démarquages, les surmarquages s'opèrent autour du sujet. En d'autres termes, apprécier dans une dialectique de l'identité de la différence, comment les habitudes de la pratique sont entretenues ou comment la déception d'attente est instituée par tel écrivain ou telle œuvre. Non, nous avons opté pour la stylistique sérielle qui s'attache à des séries de faits langagiers. Une série est un fait de réseau, de faits homogènes d'un point de vue analytique quelconque. Donc, il s'agit d'une vie synoptique des œuvres qui permet de chasser, je cite Moulinier, la répétition partout et sous toutes ses formes. Donc, là, je vous épargne les détails. Donc, réconciliation linguistique. Deux personnes qui ne se comprennent pas, qui ne peuvent arriver à une compréhension que par l'intermédiaire de l'interprète. Donc, je remarque que dans le djinn et la médaille, la présence de l'interprète est effectivement, je me répète, elle est notée. C'est à peu près normal, en 1956, tous les Africains ne parlaient pas encore français. Mais par contre, cette présence d'interprète est plus questionnable dans des œuvres plus récentes, 2002, 2005, 2006, je parle de Lino Ramiano, je parle d'Ampateba, Tienou Mwenembo, et ainsi de suite. J'ai des exemples, mais je vais... Alors, je vous cite un exemple tiré du roi de Kael de 2009, Tienou Mwenembo. C'est un exemple assez cocasse. Le cuisinier et l'interprète, les deux hommes essentiels des colonies, de leur art dépendait la vie du blanc. Ils vivaient ou mouraient de la mamie du premier, de la bouche du second. Une petite pincée de sel, celui de la cuisinière bien sûr, et votre cœur s'arrêtait de battre après deux ou trois jours de rhume. Un mot mal traduit dans l'oreille des rois nègres, vous étiez bon, selon le rite du coin, pour la case au serpent ou la strangulation. Ces deux-là, il fallait les sélectionner, les complimenter matin et soir, les gratifier pour rien, surtout l'interprète, le poison des mots étant dans ces contrées souvent plus redoutable que celui des mains. Donc, là, ce sont des faits que je répertorie pour essayer de montrer comment leur présence est vraiment très frappante. Il est parti de manière, je vais peut-être dire, éhontée. Dans les textes. Donc, le deuxième fait, c'est le purisme linguistique et le traumatisme pendant l'apprentissage. Donc, plusieurs romans trouvaient judicieux de mettre en scène cela. Donc, Contour du jour qui vient, qui est publié en 2006 de Lino Ramiano, il y a des longues occurrences qui traitent de ça. Je rappelle que Lino Ramiano n'a pas grandi au Cameroun. Donc, c'est une expatriée qui vient en France. Donc, si on se demande pourquoi est-ce que elle écrit et qu'elle parle des problématiques linguistiques, de son rapport à la langue française, ça ne devrait pas se poser en des termes similaires à ceux, par exemple, de Sonny Laboutansi ou bien d'autres anciens, quoi. Donc, nous avons aussi la circulation du discours épilinguistique, où j'essaie de faire ressortir, que ce soit dans des analyses de romans ou dans les romans, vraiment les mêmes énoncés, où il est dit, par exemple, que l'apprentissage du français est un signe extérieur de savoir, il est la clé magique qui donne accès à la réussite sociale et au pouvoir. La Sengalasso, Kourouma reprend la même chose. Il semble que la conscience du français fasse de chacun en Afrique un évolué, un grand quelqu'un, entre guillemets. Donc, Lino Ramiano dit similairement la même chose. Nous devions dans son esprit appartenir au clan de ceux qui possédaient le français, la langue des conquérants, le seul unique moyen de les égaler, ainsi de suite. Le français, la langue officielle du pays, l'usage du palais colonial semble plus sûr moyen de préserver une forme de paix identitaire. Celui de la Boutansi, pour sa part, dit le français est une langue d'ouverture d'insertion. Bref, une répétition vraiment des mêmes énoncés. Alors, j'ai trouvé très intéressant, je ne sais pas si il reste encore
deux temps. 2 minutes, ok.
Bon, je vais... Donc, je vais peut-être vous partager ces citations de Ngalasso d'abord, qui en 1989 tirait déjà la sonnette d'alarme. Il dit, on se contente habituellement d'interviewer les auteurs écrivant en français, davantage pour les entendre proclamer haut et fort leur attachement personnel à la langue de Voltaire, devenue par la force des choses de langue d'écriture que pour faire véritablement une réflexion collective sur les rapports de la création littéraire et l'instrument linguistique. On comprend mieux alors les coups d'éclat et les empoignades auxquels on assiste quelquefois dans les rencontres et colloques entre auteurs et critiques, notamment lorsque l'on évoque les langues africaines. Il a alors permis de se poser quelques questions. Au fond, est-ce bien aux écrivains d'argumenter en faveur ou en défaveur des langues? Donc, en bref, tout ce que je voulais dire, c'est simplement que, à lire les romans, on pourrait penser que l'Africain ordinaire est encore dans le problème, les problématiques des langues, il se pose la question de savoir est-ce que la langue française est bien pour lui, est-ce que c'est pas bien pour lui. Et si on se limite à ça, ça donne une image. image assez faussée de ce qui pourrait se limiter au roman pour avoir des représentations de l'Afrique. Voilà, j'ai développé plus d'autres points, mais je ne peux pas les livrer plus ici. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup et désolé de vous avoir
coupé. C'est moi qui suis désolé.
Je vais laisser la parole à Maria Tabasto, qui va peut-être faire une synthèse générale de la discussion, et je dirais deux mots avant.
D'accord. Donc, j'aimerais bien commencer par féliciter les organisateurs de ce colloque par l'idée de réunir les jeunes chercheurs. Je crois que c'est vraiment une excellente idée. Et de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, je pense que ça se passe très bien. Donc, c'est félicitations à nouveau pour le fait que tout se passe très bien. Et souhaiter que d'autres colloques de ce genre puissent se refaire dans les années qui viennent. Bon. Donc, je pense que nous avons eu aussi des communications fort intéressantes et en plus qui touchent à toute cette partie de l'art, la littérature, la peinture. Ça aurait été très bien aussi d'avoir quelque chose sur le cinéma, puisque le cinéma est tellement important en Afrique. Peut-être pour la prochaine édition, on aura des questions sur le cinéma. Et je ne peux pas le dire comme ça avant de faire mon petit commentaire, que je suis aussi très heureuse du fait qu'il y a, du fait que moi j'ai été invitée juste par le fait que je travaille sur l'espace lusophone, et donc quelque part il y a une partie de cet espace qui est là à travers moi, même si je ne présente pas de communication, et aussi le fait que, notamment avec la première communication, on a eu on a pu voir des tableaux de Malangatan et aussi des photos de Rangel qui sont absolument magnifiques. Et si on aura le temps, on pourra encore y revenir. Je pense que les trois communications, elles touchent à une problématique commune qui concerne la façon dont l'Afrique est ramenée à une entité exotique, à un monde à part. Donc, en effet, très bizarrement et très paradoxalement, à la construction d'une altérité artificielle de cette Afrique qui finalement l'exclut de la circulation et des relations qui se passent normalement avec les autres espaces. C'est-à-dire que, en ce qui concerne l'Afrique, il y a une espèce d'anormalité, l'espace d'exception, et donc cette altérité artificielle, et je dis que c'est assez paradoxal, parce que, en même temps, l'altérité a toujours été quelque chose qui a été revendiqué comme, donc, l'altérité, c'est quelque chose qui se revendique quand on veut construire une indépendance, une autonomie. Et donc là, on a une espèce de l'autre côté, le pur côté de cette construction de l'altérité, qui est maintenant une altérité imposée par l'Occident à l'Afrique. Donc ce phénomène est fait sur la production culturelle de l'Afrique et sa réception, y incluant les propres orientations de la recherche scientifique. Ainsi, nous avons vu dans la discussion des modalités d'expérience moderniste en art visuel, sous la domination coloniale et au tournant des indépendances, et on voit qu'il existe justement très peu d'études qui s'intéressent aux appropriations des arts européens par les artistes africains. Je pense que ça, c'était quelque chose qui a été dit aussi dans la première communication et qui est très important, justement ce peu d'attention aux appropriations des arts par les artistes africains. En fait, en gros, pour dire, après, quand on écoute aussi les autres communications, à toute forme d'appropriation par les artistes africains. Cette absence est largement due aux effets épistémiques d'une prétendue authenticité africaine, et celle-ci explique pourquoi l'art plastique en Afrique a été réduit à ses manifestations dites traditionnelles et leur rôle de source d'inspiration pour les arts modernes européens. Une autre partie de cette vision serait de considérer que l'art issu de la culturation coloniale serait dépourvu d'intérêt, car elle serait une sorte de mauvaise imitation de l'art européen. Et la thèse, disons, de cette première communication, génération et qui on peut aussi voir dans les autres qui ont suivi, et au contraire qu'il faut dépasser le présupposé de l'assimilation culturelle pour saisir la teneur d'un processus de sélection et de récréation active. Et là, j'aimerais bien introduire une question qui est posée par Jacques Rancière, notamment dans son livre Le Maître ignorant, et qui me paraît qui est souvent oubliée dans ce genre de problématisation et de problématique, qui est le fait qu'en effet, à la base de toutes ces questions, c'est qu'on considère les Africains comme des apprentis, c'est-à-dire ils sont toujours des apprentis, bon, ils sont toujours des enfants, et cette mission civilisatrice qui allait amener justement le progrès et la civilisation, elle allait parce que c'était des enfants et c'était des apprentis. Donc on continue à voir dans leurs œuvres qu'ils sont dans une espèce qu'ils doivent passer par un processus linéaire et progressif qui va du sauvage à la civilisation, qui va justement du primitif au moderne, après un peu varié, et qui empêche de faire jouer ce concept donc de Rancière qui est l'égalité des intelligences, c'est-à-dire. Et souvent, et ça peut être, disons, une question que je pose aux trois intervenants, est-ce que dans vos communications, vous partez de très bonnes constatations, c'est-à-dire, mais après, dans la démarche, il n'y a pas la continuité de ce parcours, de cette dichotomie, il n'y a pas quelque part le fait qu'on oublie de partir, de confirmer, de dire. C'est un peu aussi comme penser que la politique doit être une démarche vers l'égalité, ou partir du principe que l'égalité existe et qu'il faut la confirmer. Donc c'est pareil, c'est soit on part du principe que tout ça, tous ces écrivains, les artistes, etc., ils sont dans une démarche, dans une progression qui part de quelque chose et qui est encore primitif vers quelque chose qui est intelligent. Donc là, ils ont rejoint le monde occidental. Ou est-ce qu'on doit partir du fait qu'ils sont exactement égaux, et donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier cette égalité des intelligences. Et à mon avis, disons, la question pour vous trois, c'est un peu ça. Est-ce qu'on doit continuer à faire des thèses ou des communications où on fait des constatations et finalement on suit trop proche la dichotomisation de ces choses, ou est-ce qu'on doit au contraire prendre déjà à partir du principe que ce qu'ils font, c'est comme n'importe quel artiste, et donc on va tout simplement confirmer si c'est ceci ou si c'est cela, ou qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ton œuvre. Sinon j'ai un peu l'impression qu'on continue à perpétuer une démarche qui finalement est clairement énoncée comme pas intéressante dans toutes les introductions. Bon, je pense que j'ai un peu non parce que donc, on peut considérer que le poids. Bon, alors je lis juste encore un peu plus parce que j'ai l'impression que j'ai un peu dépassé le temps, parce qu'on avait dit 15 minutes. Bon, alors le rencontre des effets similaires dans la recherche des études théâtrales sur l'état protégé d'Afrique présenté par Pénélope des Chauffour. Dans sa discussion des difficultés auxquelles ce champ de recherche fait face, elle nous parle des effets continus de la vision occidentale exotique de l'Afrique et de sa prétendue africanité. Là aussi, je pense que ça serait intéressant de bien définir, parce que qu'est-ce qu'on entend par exotisme et par africanité, non ? Souvent, l'exotisme et africanité apparaît comme quelque chose dans un espèce de registre accumulatif. Hein. En fait, exotisme, africanité, etc. Et je crois qu'exotisme et africanité, ce n'est pas la même chose. Parce que, l'exotisme, il est à la fois quelque chose qu'on peut voir d'un côté vers l'autre, dans le regard de l'un vers l'autre. L'africanité, c'est déjà quelque part une mise situation de cet ésotisme. Donc je crois qu'il y a aussi quelque chose à travailler sur ces deux concepts qui sont souvent mis l'un à côté de l'autre, sans qu'il y a cette... Je crois que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire jouer, justement, jouer l'un contre l'autre. Hein. Jouer l'exotisme contre l'africanité. Et dans ce jeu, on pourrait saisir, justement, tout ce qui est la partie, tout ce qui est la subversion, c'est-à-dire tout ce qui est sorti dans l'ordre précédent. Qui finalement, à mon avis, serait la vérification intéressante à faire à chaque artiste. Donc évidemment, tout ça traduit, et vous l'avez bien signalé, par l'association courant entre théâtre d'Afrique et folklore, qui aboutit à une demande d'africanité de la part de l'industrie du spectacle, et par la réduction à un cadre géographique qui laisse de côté le poids des circulations et échanges. Et ça me paraît aussi assez intéressant, hein, si vous l'avez bien spécifié, cette question de ce cadre géographique, donc qui coupe, qui est différent. Mais, bon, j'ai dit au départ que la lusophonie, l'espace lusophone, il est un peu abordé. Je crois pourtant que l'Amérique latine est un peu absente. Et l'Amérique latine est un continent, non seulement par rapport à l'espace lusophone, hein, entre le Brésil, l'Angola et le Mozambique, est très important, mais aussi par rapport aux autres pays africains, parce qu'il y a tout l'internationalisme des années 60 et 70, toutes les revues qui sont constituées, tous les mouvements de libération, les révolutions, ils ont laissé tellement de marques et tellement de traces. Hein, chez les artistes africains que souvent ils étaient aussi des modèles. On peut même venir un peu en arrière avec le surréalisme, avec l'importance de certaines écoles mexicaines par exemple, la présence aussi. Bon, donc je crois que l'Amérique latine serait aussi un espace à inclure dans tout ce qui est circulation. Et je fais encore un petit point. La circulation, c'est vraiment quelque chose de très important. Travailler sur la circulation, c'est encore la même démarche que je peux dire, sortir d'une constatation des dichotomisations, de tout ce problème de la labellisation, de l'authenticité, de l'enfermement et tout ça, et essayer de vérifier. De constater comment les choses se passent sur le terrain, de constater si cette égalité des intelligences existe, et laisser cette constatation la faire dans un travail, une analyse de la circulation des idées et des personnes. Parce que les gens circulent beaucoup. Les écrivains, les artistes, les peintres, les photographes, ils ont beaucoup circulé. Et cette circulation des idées, et des biens, et des personnes, permet, disons, la constatation, travailler vraiment sur ça, vérifier dans leurs travaux où est-ce qu'il y a des traces de ces circulations, parfois des amitiés personnelles aussi. Bon, donc je crois que nous avons eu trois très bonnes communications qui ont pu nous éclairer sur ces problématiques. Je poserai des petites questions plus précises, même si j'ai déjà un peu posé des questions à vous trois en ensemble. Dans la communication de Donald, j'aimerais bien que vous demandiez si vous ne pensez pas que d'une certaine façon, toute cette problématique de la langue et la représentation linguistique, est-ce qu'elle n'est pas, et surtout, un problème des élites? Et parce que pendant votre communication, vous parlez souvent de l'Africain ordinaire et puis de l'écrivain. Donc, je suis un petit peu gênée par cette opposition, mais peut-être que la gêne, elle vient tout simplement que vous ne la travaillez pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que Appiah, il parle un peu justement de ces élites de comprador, non? Comprador, je veux dire en français. Et donc je vous pose un peu cette question, si on peut répondre. Et aussi, vous dites que l'instance privilégiée, sinon la seule à permettre l'expression des aspirations des peuples à travers une représentation des dynamiques sociopolitiques, c'est la littérature. Je comprends bien que vous êtes dans le champ du discours, et donc c'est la littérature versus la presse. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une absolue utilisation de la littérature? Est-ce que la littérature, quelque part, n'apparaît pas comme une espèce d'absolu littéraire, un peu comme on l'a souvent travaillé ici? Et donc, il y a une certaine croyance à cette démarche littéraire. Et quand vous parlez de littérature, de l'écrivain et de l'historien, le fait que les écrivains se disent être des historiens, je trouve ça, c'est ça, c'est vrai, ils le font. Mais est-ce que dans votre analyse, vous n'êtes pas trop proche des... Vous suivez trop ce qu'ils disent. Et il faut prendre la distance. Ils disent qu'ils sont ça, mais c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont ça qu'on va les croire. Il faut toujours confronter ce qu'ils font à ce qu'ils disent, hein, et voir un peu dans quel... Parfois, vous suivez de façon trop proche votre objet de recherche. Et par rapport à Pénélope, une question, par rapport à Audrey, donc moi je resterai bien sur ces questions d'égalité des intelligences, le problème du mimétisme. Vous parlez aussi de la question de la variabilité. Je trouve que c'est très intéressant la variabilité. Mais c'est tellement intéressant que moi j'aimerais bien voir une communication sur la variabilité. C'est-à-dire, non pas la constater, mais dire non, non, comment elle est. Parce que là, il y a toute la situation. Et donc, Pénélope, est-ce que vous n'êtes pas en train d'affirmer, de raffirmer un modèle qui, quelque part, réduit l'art africain à un travail de contextualisation et explication sociologique? Est-ce que, quelque part, le côté esthétique n'a pas été un petit peu, oublié par rapport, est-ce qu'il y a, par rapport à cette contextualisation et explication sociologique? Parce qu'au départ, c'est pas ça ce que vous voulez faire, mais à la fin, est-ce qu'il n'y a pas l'utilisation d'un travail esthétique pour expliquer une démarche sociologique? Voilà.
Merci beaucoup. Je ne pourrais pas parce que j'ai trouvé ça passionnant, mais il manque une communication en fait qui était. On a essayé de faire un panel interdisciplinaire et il y avait une communication en anthropologie qui était prévue, sur lequel je pensais un peu plus m'appuyer. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment les trois communications passionnantes. Le leitmotiv un peu qui est revenu, c'est vraiment la question de l'histoire. Tu as parlé de mémoire plusieurs fois, donc c'est une mémoire comme ça qui est travaillée, que ce soit par les arts performatifs, par les arts visuels, que ce soit au sein même de l'espace linguistique. Je crois que c'est toi qui as parlé un peu d'archives. Donc on est un petit peu dans un rapport continu dans les trois communications que j'ai trouvées avec une histoire qui est un peu une histoire piège, donc qui est une histoire en même temps qui est dépendante des contextes sociaux, des géographies, et en même temps on a l'impression dans laquelle les acteurs se reconnaissent. Et une histoire qui est médiatisée par rapport à différentes formes. Et c'est un petit peu ma deuxième question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est qui sont ces artistes en fait. Est-ce qu'on est vraiment dans des intellectuels organiques qui représentent les populations, ou au contraire est-ce qu'on est dans ces intellectuels compradors qui évoluent beaucoup en Occident? Et bon, j'aurais peut-être des questions après, j'y reviendrai plus précise à chacun, mais voilà, juste pour ouvrir aussi le débat sur la question, voilà, on connaît le titre de l'article de Spinoza, les subalternes peuvent y parler, puis je crois qu'il y a les subalternes peuvent y entendre. Donc, c'est un peu ça ma question à tous les trois, la réception en fait entre ces les trois communications que vous avez. Peut-être que on va faire un tour de salle avant de passer la parole aux intervenants.
Ok, merci. J'aurais une deuxième question. Première question à Donald. Je suis très interpellé par son communication que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Mais pas parce que les questions concernant le français me passionnent, mais parce que c'est un sujet passionnant en Afrique et au Cameroun particulièrement. Je suis camerounais moi aussi. Ma première question, c'est que je n'ai pas compris la problématique du papier. Je n'ai pas vraiment compris, et même dans la suite, même à la conclusion, j'avoue que jusque-là, je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il a terminé le tutoyant en disant qu'il s'agissait de montrer que les Africains ne sont pas vraiment dans ce problème-là, mais sans nous dire où est-ce qu'ils étaient donc. Véritablement. Une autre question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais, c'est que j'ai pas compris le terme blanc noir est venu régulièrement parler d'Afrique. J'ai pas compris si c'est un problème d'Africains colonisés par rapport à une culture dominante ou c'est un problème de noir aux prises avec des blancs, c'est-à-dire un problème purement racial. Je pense que c'est pas pareil qu'on parle du problème linguistique dans les sociétés colonisées d'Afrique. Et que, en fait, je n'ai pas très bien compris le passage entre Africains, empires coloniaux et noirs. Enfin, sauf si tu les as pris comme des synonymes. Donc, l'usage de ce terme-là. Je peux avoir beaucoup d'observations à faire. Je vais pas réagir à tout ce que tu as dit, mais il y a des questions qui me semblent être vraiment internes à la critique littéraire sur l'Afrique, quoi. Moi, je suis étudiant en sciences politiques, je m'intéresse à cette question, je lis des textes de critique littéraire et d'écrivain même. Mais je pense qu'il y a des questions qui, moi, l'Afrique pour moi est ordinaire, sur lesquelles la critique dérobe un mouvement, mais qui ne m'intéresse pas. Je prends la question, par exemple, savoir, tu l'as évoqué, les écrivains ne se contentent pas de rester dans la littérature, ils se font critique. Je pense que les écrivains ont le droit de tenir un discours sur leurs propres écrits, quoi. Je vois pas en quoi ça pose problème. Pourquoi on me les soumet d'écrire des romans et de n'avoir rien à dire sur ce qui les amène à écrire des romans, sur comment ils en sont venus à devenir écrivains et sur le regard qu'ils peuvent poser eux-mêmes sur leur propre société. Donc mon objectif est d'écrire un roman et écrire un texte critique sur ce qu'il a voulu dire à travers son roman. Je ne vois pas pourquoi. Je trouve que les critiques peuvent faire des ouvrages longs de plusieurs. Mais nous, on lit son roman et puis on lit ce qu'il dit sur les je pense que, de façon pratique, de mon point de vue en tout cas, je pense que ça n'a pas d'implication au-delà des débats purement pratiques. Par ailleurs, je vais encore faire deux choses là-dessus, puis je vais poser une question à Audrey. Tu as aussi évoqué le fait que la question de la traduction était peut-être plus importante qu'aujourd'hui. C'est vrai, dans une certaine mesure, mais toute l'Afrique, même au Cameroun, tout le monde, je ne pense pas qu'on puisse dire que le français soit devenu aujourd'hui en Afrique une langue aussi, comment je vais dire, hégémonique que ça. Il y a bien à Douala, qui est quand même une ville extrême cosmopolite, il y a des endroits où ça ne vaut pas la peine de parler aux gens en français, il faut parler pidgin pour échanger, ou alors il faut parler une langue locale. Donc je pense que le français n'est pas si hégémonique que ça en Afrique, et c'est tant mieux. Je finis par là en disant que la question de cette question de. Parce que tu fonds notamment ta communication pour une part sur le fait que la question du français en Afrique continue d'être une question dominante. C'est vrai, moi je me demande pourquoi on écrit des centaines de thèses au département de l'aide moderne française et on est sur les virgules dans les romans. que, avec, on n'a pas le même ressenti forcément, mais pour moi, le français est un problème. Dans la mesure où je m'interrogeais il y a 10 ans, je m'interrogeais il y a 5 ans, je m'interroge encore aujourd'hui, je m'arrête régulièrement pour essayer de constater et me poser la question de savoir en quelle langue je pense. C'est-à-dire lorsque je suis tout seul et lorsque je t'observe, à un moment donné, il faut que je sache en quelle langue j'ai pensé ce que je vais te dire au départ avant de traduire en français. Est-ce que j'ai traduit ambassade, c'est ma langue? Ou alors est-ce que j'ai pensé ambassade, j'ai formulé d'abord ambassade, ou j'ai formulé en français? Et je pense que c'est important pour m'identifier moi-même, pour savoir où est-ce que je me donne. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire clairement que ce n'est plus un enjeu du tout. Évidemment, on est dans des situations où les gens, dans la maison, parlent de moins en moins leur langue maternelle aux enfants, pour beaucoup. Donc, dans une partie des familles de la société africaine, c'est peut-être un problème qui ne se pose. C'est-à-dire que les gens ont jugé que leur langue n'avait qu'à l'abandonner, puisque depuis 50 ans d'indépendance, les linguistes africains ont passé plus de temps à débattre sur les virgules dans la langue française que d'établir des dictionnaires des langues africaines, que les. De développer un vocabulaire sur les évolutions technologiques qui permettraient que ces langues soient mises à jour. Parce qu'il n'y a pas de langue, chaque langue évolue. On travaille une langue, que si on ne la parle pas, évidemment, elle ne sera pas adaptée à l'époque à laquelle on vit. Il est normal aujourd'hui que beaucoup de jeunes africains ne puissent pas parler leur langue à la maison parce qu'il veut dire ordinateur. Il n'y a pas de mot dans la langue pour dire ordinateur. Mais ordinateur, ce n'est pas un mot qui existait dans la langue française, je ne sais pas, en 1700. C'est parce qu'avec les évolutions, on adapte le vocabulaire, ça enrichit, on emprunte des termes, on crée d'autres pour que la langue puisse continuer de rendre compte du vécu. Donc je ne suis pas absolument d'accord avec l'idée que le français ne soit plus un problème. Peut-être pour toi, je crois que pour moi, il est quand même il continue quand même un tout petit peu de faire le problème. Une question à Audrey sur les écoles. C'est très intéressant, mais je pense que tu n'as pas fait d'arrêt à certains moments ou à d'autres pour nous dire un tout petit peu quels étaient quand même les débats, les problèmes, les questions, les débats artistiques que les différentes écoles que tu as évoquées soulevaient. Je pense que ça aussi, même en quelques mots, serait intéressant de. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Non seulement les débats, les débats, c'est-à-dire quels étaient leurs. Tu as dit parfois qu'il s'agissait de vraiment d'essayer de recréer un art purement africain, et tu n'as pas fait, je pense que tu n'as pas vraiment fait pour la majorité des écoles. Donc tu as évoqué plein d'écoles, mais sans toujours qu'on voit concrètement ce que. À quoi est-ce qu'on envoie. Bon.
Je crois que c'est bien, tu voulais poser la question.
Oui, alors j'avais une question à poser à Pénélope et j'avais une question à poser à Donald. Par rapport à ce qui vient d'ailleurs Audrey, en fait, c'est vrai que tes slides en fait, sont passés assez vite. Et parfois, moi j'ai pas une grande culture sur l'art contemporain ou même l'histoire de l'art africain. Du coup, pour moi, c'était un peu difficile aussi. Mais bon, c'était juste une remarque, c'est pas du tout une critique. À Donald, alors j'ai commencé par Pénélope. Pénélope est mentionnée très bien. C'était pas une découverte d'entendre le témoignage de Pénélope. On en a déjà beaucoup parlé toutes les deux. Moi, enfin, à ce sujet de ma thèse donc en littérature africaine, j'ai quelques années de plus dans le parcours du doctorat que Pénélope, et j'ai le sentiment en fait que la difficulté pour nous, c'est à la fois de faire une thèse comme tout le monde, mais aussi de se situer toujours à la relation postcoloniale, cette relation de la France à l'Afrique. Et à cette histoire, en fait, dont on hérite malgré nous. Moi, j'en suis arrivée à. C'est vraiment très personnel ce que je vais dire. Mais j'en suis arrivée à me dire qu'on doit parvenir à se mettre au-dessus de cette relation. Parce que finalement, en fait, elle est comme un frein, une entrave à des propositions épistémologiques. C'est-à-dire que dans ta proposition, c'était un constat. C'était un constat parfois pessimiste. Mais moi, j'attendrais, voilà, à la fin, voilà. Voilà ce que je propose pour essayer de réduire tout ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment que ce sont des questions qu'on pose depuis 20 ans. Tu as cité l'article de Françoise Gruy qui date de 1990. Je pense que la critique a évolué, et surtout, il
Il y a un paquet de chercheurs aujourd'hui et de chercheurs modernes, ouverts sur le monde, qui ont voyagé et qui n'ont pas de préjugés, qui ne vont pas avec des préjugés vers cette littérature. Et je pense qu'on ne peut plus dire aujourd'hui que le regard sur le théâtre africain ou la littérature africaine est un regard exotisant. Enfin, moi je ne suis pas d'accord en tout cas avec, avec cette vision. La dernière chose, c'est le manque d'outils théoriques et le manque d'outils épistémologiques en France. Comme l'a dit Audrey dans, son, dans sa présentation, elle disait on est un peu en retard par rapport au, au monde anglo-saxon. Moi, je me demande en fait ce qui nous empêche d'utiliser, d'emprunter les outils anglo-saxons. On a cité Appia, on a cité... On a cité Givac, on peut citer Gilroy, on peut citer Stuart Cole, Christopher Miller, il y en a pas mal en Angleterre ou aux États-Unis qui ont déjà pensé, je pense, Christopher Miller, c'est le triangle français atlantique, ou Dominique Thomas dans La France noire. Et donc, ils ont déjà pensé en fait cette léance vide terminologique, épistémologique pour pouvoir nommer et définir et critiquer cette littérature. Donc je pense qu'on peut emprunter voilà, d'autres outils. On peut faire de la métacritique. À la rigueur, on arrivera forcément à une solution, à une réponse. Mais pour moi, le marronnage, j'ai entendu beaucoup ton labo et d'autres labos voilà, parler de cette fameuse question du marronnage esthétique, etc. Pour moi, c'est peut-être une catégorie esthétique ou stylistique, mais c'est pas une catégorie critique, c'est pas une catégorie théorique ou épistémologique, en fait. Et c'est une métaphore ou un symbole. En tant que chercheur, on est bloqué, voilà, c'est une réaction affective, en gros. Et c'est une réaction affective qui est aussi en écho à la réaction affective des auteurs. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on prenne du recul par rapport à ce que les auteurs subissent et vivent et leur manière voilà, de raconter, de livrer leur expérience d'écrivain africain. Je pense qu'il faut qu'on se dégage aussi de la relation postcoloniale, ou en tout cas qu'on apprenne à la définir, et une fois qu'on l'a définie, qu'on s'y tienne. Et je pense qu'on peut profiter de cette période de mondialisation, de circulation des idées, et surtout de transdisciplinarité, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ans. On faisait de la littérature, on ne faisait que de la littérature, et on n'ajoutait pas de psychanalyse ou de sociologie dans la littérature. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est une aubaine pour construire vraiment un discours critique un peu plus riche, et du coup, laisser toutes ces choses en fait, qui sont lourdes et qui nous empêchent peut-être parfois d'avancer. Mais je pense que ça, c'est aussi le problème voilà, des chercheurs en littérature ou en cinéma ou en théâtre sur l'Afrique, c'est qu'on n'arrive pas neutre, on arrive avec pratiquement 50 ans en fait, d'un discours critique exotisant, parfois en tout cas réducteur, qui s'est construit. Et c'est le cas de tous les... peut-être les arts de mineurs en empruntant à la formule à Deleuze ou bien, par exemple le cadre ancien qui allait dans les années 70 interviewer des ouvriers et qui en a fait des philosophes et qui a extirpé voilà, ces citations d'ouvriers en disant en montrant la sagesse populaire. Donc tout ça c'est possible, mais ça demande en fait des actes de parole et peut-être un ton plus péremptoire et une utilisation plus péremptoire du discours critique sans avoir peur de l'arrogance en fait. Je pense qu'il faut un petit peu d'arrogance critique pour nous chercheurs aujourd'hui. Voilà, mais ça c'était ma remarque et je pense que c'est complètement normal en fait. Je ne suis pas du tout étonnée de ce que tu me dis. Moi ce sont mes conclusions en arrivant à la fin de ma thèse. La deuxième remarque c'était par rapport à Donat, je suis désolée, je vais aller très vite. Léonora Miano, elle est venue en France à 12 ans. Elle a grandi au Cameroun. Donc. Elle a des questions, enfin les questions qu'elle se pose sont légitimes sur la langue française. Ma remarque en fait c'est que j'ai eu l'opportunité de lire tout ton texte. Malheureusement tu n'as pas eu le temps de livrer ta conclusion et j'ai trouvé ta conclusion très intéressante et sans ta conclusion c'est vrai qu'il est difficile de comprendre exactement où tu veux en venir. Moi j'avais simplement deux remarques. Donc à la fin de ton texte, tu reproches en fait une confusion entre francophonie et francographie, et tu perçois la francophonie comme un jeu littéraire, en fait une stratégie d'écrivain. Moi pour moi la francophonie en fait... Pardon ?
La graphie.
Ah la francographie, d'accord. Alors c'était pas très clair dans ton texte. Très bien, voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Ma deuxième question, c'est que tu livres une proposition épistémologique, justement, à la fin de ton texte, et tu parles d'une sémiotique de la présence. Donc, en gros, je pense que ton idée, c'est que tout ce qui appartient au passé, justement, on arrête, on arrête de s'alourdir, et de s'alourdir, on reprend une espèce d'indépendance d'esprit, en fait, et de s'intéresser à ce qui se passe, dans la présence, enfin, l'acte de présence, tout simplement, présence d'écriture, et de revenir à quelque chose de plus existentiel, justement, et de moins essentialiste. Donc je trouvais ça intéressant, et je pense que tout le monde serait content de t'entendre dire quelques mots là-dessus. Voilà.
Merci beaucoup. Il reste pas énormément de temps, je ne sais pas s'il y a une... Enfin, on devrait finir dans 2 minutes, mais peut-être qu'il y a une dernière question dans la salle. Enfin, je ne voudrais pas frustrer quelqu'un dans la salle, donc vraiment, c'est pas... Je ne sais pas, voilà, si tu veux répondre à...
Oui. Mais du coup, peut-être dans le débat, en fait, pourquoi les débats n'ont développé la rapidité et le manque d'approfondissement de la variabilité. Donc, en fait, ça a été juste un choix que j'ai fait. Soit j'aurais pu prendre une ou deux écoles et vraiment les détailler, expliquer plus les différentes appropriations et du coup... plus expliciter les débats, mais j'en ai quand même soulevé quelques-uns en Ouganda à propos de cette synthèse ou non, d'une africanisation ou non. Autour de Saint-Gor, de l'opposition de Baïnda, il y a le laboratoire Agitart, pareil, qui réagit. Mais c'est vrai que la circulation, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et dans un autre type de présentation, j'aurais aimé présenter ça un petit peu davantage. Quant à la méthodologie qui perpétuerait cette idée d'évolution de l'artiste africain, de l'apprenti à l'intelligence, j'avoue très honnêtement m'être laissé prendre par ça au départ, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, ou quand je me retrouvais face à des œuvres comme celle de Poto Poto, je me disais, j'avais une réaction assez brusque, de dire mon Dieu, c'est pas de l'art, c'est trop exotique, c'est trop touristique. Et puis au fur et à mesure, justement, je me suis reconcentrée sur la circulation des artistes, sur leur approche critique, de leur héritage comme de ce qu'ils allaient chercher ailleurs. J'ai remis de l'histoire aussi. En histoire de l'art, on a souvent tendance à l'oublier. Et du coup, mes préjugés sont tombés de cette façon. Par de précédents travaux aussi, j'ai essayé d'appliquer toute la méthodologie d'histoire de l'art à des artistes d'Afrique comme de Cuba qui réinterprètent le Mkizi Congo par exemple. Voilà, mais c'est un processus et j'avoue qu'il faut être vigilant parce qu'on a encore plein de choses à déconstruire. Et je trouve très souvent histoire de l'art en retard par rapport à d'autres disciplines sur ces questions. On est encore très esthétique, très hiérarchie en fait, où justement l'art suprême serait l'art pour l'art européen et en bas il y aurait l'artisanat africain, quoi. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu, c'est bon?
Donc rapidement, par rapport au lien entre exotisme et africanité, en fait, pourquoi est-ce que je fais ce lien qui du coup rend aussi bien l'exotisme que l'africanité connotation plutôt négative? C'est pour dire qu'en général, justement, quand les publics ou les lecteurs vont vers ces œuvres-là, c'est en quête d'exotisme et d'africanité, puisqu'ils recherchent des éléments typiques du continent africain, de son folklore, de sa géographie, de son aspect politique, social. Après, justement, je sais pas si c'était vraiment le sens de votre propos, Madame Bassot, mais si c'était, si on devait redorer, entre guillemets, le blason de l'exotisme, pour moi, je dirais que le versant positif de l'exotisme, je l'appellerais plutôt altérité que exotisme. Enfin, alors, pour répondre à la question que vous m'avez posée directement, du coup, sur
le fait est-ce que du coup j'ai pas évincé des éléments esthétiques en réaffirmant plutôt un modèle sociologique, je réponds à cette question en même temps que je réponds à la question de Célia sur ce que je propose, c'est que en fait, donc comme je l'ai dit, moi ma thèse ne s'attarde pas du tout sur les questions que j'ai présentées aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment présenter un témoignage. Et donc ce que je propose pour faire court, c'est justement ce que je vais faire dans mon travail de thèse qui ne passe pas du tout par ce canal-là, et qui passe par le canal de la marionnette, pas de la marionnette africaine, mais de l'histoire de la marionnette et du lien entre la marionnette et le texte de théâtre depuis les avant-gardes au niveau international. Donc là, je l'ai fait aujourd'hui parce que par rapport à l'axe épistémologique et au choix du témoignage, ça s'y prêtait. Justement, c'était pour témoigner de ce problème, justement, de rapport au modèle sociologique auquel, finalement, on est sans cesse confronté. Puisque, genre, c'est ce que je disais. Donc, là aussi, je réponds à la question de Célia, enfin, à la remarque de Célia qui dit qu'elle a l'impression que, en une dizaine d'années, la critique a évolué. Ben, c'est vrai que moi, je suis en deuxième année de thèse, donc beaucoup plus jeune par rapport et aux lectures théoriques et à l'expérience concrète. Mais voilà, enfin pas plus tard qu'il y a au mois de septembre, j'ai participé à un colloque où je me suis fait violemment interrupteur m'a violemment repris en disant que je ne pouvais pas parler de ces auteurs-là. Puisqu'ils ne vivaient plus en Afrique et que du coup ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus aucun rapport avec l'Afrique et que ça n'avait rien à voir, qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, que Sandor et Césaire écrivaient bien et que donc lui il avait l'impression que je disais que eux ils écrivaient mal en termes esthétiques par rapport aux auteurs d'aujourd'hui. Enfin voilà, tout un tas de ça, c'était au mois de septembre. Encore récemment, j'ai fait une interview avec l'éditeur Bernard Magnier il y a deux semaines, dans lequel lui-même, alors que lui aussi se bat depuis 20 ans pour lutter contre ces carcans exotiques et ces espaces clos, lui-même disait que bon, bah, c'est vrai qu'il faut quand même, aller dans le sens du lecteur pour des raisons économiques, puisqu'il va chercher toujours l'Afrique, et que lui-même il dit, eh ben, et moi-même, si je vais dans une rencontre de littérature suédoise, je m'attends quand même à ce qu'on parle de la Suède. Et moi, je lui ai dit, bah voilà, par exemple, moi, je suis vraiment étonnée que vous puissiez dire quelque chose comme ça, parce que moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, voilà. Donc, moi, je constate que, ben, certainement, les choses ont évolué, parce que des articles comme celui de Françoise Brun, on n'en lirait plus aujourd'hui, ça, c'est vrai. Mais je pense pas du tout qu'on soit complètement dépollué de ce genre de façon de penser. Tu évoques notamment La France Noire, donc, que je n'ai pas lu, mais qui est un ouvrage récent. Donc bon, voilà, j'en déduis quand même que cette problématique se pose toujours.
Ce rapport à l'Afrique, je pense qu'à force de toujours se dire on veut l'africanité égale exotisme, à la fin il y a une espèce d'impératif de non-africanité chez les auteurs. Et des auteurs comme Mabankou, son dernier roman où il parle du Wolfou au pays natal, etc., il y a la moitié des universitaires qui vont dire, moi je fais ma thèse entre autres sur Mabankou, comme tu le sais, on me dit régulièrement, mais Mabankou, pourquoi je travaille sur lui? C'est un auteur qui fait du mal à la représentation de l'Afrique, c'est un auteur qui exotise l'Afrique. Et non, enfin, c'est aussi une thématique à traiter, c'est aussi un décor, c'est aussi quelque chose d'ontologique.
Non, moi je suis d'accord avec le fait que ce soit un décor, c'est pour ça que j'ai parlé du concept de transculturalité, puisque justement je suis d'accord avec le fait que ce soit un décor. Après, aujourd'hui, j'avais pas tout le temps pour déjà évoquer des critères esthétiques, enfin voilà, comme Audrey, là c'était un choix, on peut pas tout dire dans une communication. Dans un deuxième temps, je suis d'accord avec le fait. Alors là, pour moi, cette idée de transculturalité apportait cette thématique, du fait que c'est pas du tout l'idée de nier l'africanité. J'ai juste qu'aujourd'hui, dans l'œil du lecteur et du public, au niveau de la réception, l'africanité c'est lié à l'exotisme. Donc on sort d'un sens négatif. C'est mon impression. Quant au marronnage, à cette question du marronnage, tu as fait les remarques que tu as faites dessus. Moi, je suis assez neuve dans le milieu de la recherche, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais justement, j'ai l'impression que le travail que le laboratoire mène en équipe, c'est justement d'essayer de faire de cette idée-là, qui est un phénomène historique, d'en faire un outil critique, justement. Donc après, je pense que la recherche est là aussi pour créer de nouveaux outils critiques, et c'est ce qui se passe avec le marronnage, même s'il n'est pas encore estampillé comme étant un outil critique en soi. Et pour ta question, Martin, en fait, il serait très long de répondre parce que ça dépend vraiment des écrivains, ça dépend de leur discours, il y a vraiment tout type de position. Après, je pense que du point de vue de la réception sur place, c'est sûr que même si eux ne s'en revendiquent pas, on les voit vraiment comme des figures tutélaires, d'inspiratrice et concernée, alors même, enfin, on les perçoit comme étant des figures concernées, justement, alors même que certains auteurs s'en démangent pas. Donc, voilà. Mais ça, ça dépend vraiment des profils, du coup, faudrait. Voilà.
Donald, en fait, il y a un apéro cocktail juste après. Donc, on pourra bien sûr prolonger la discussion.
Je vais te répondre à vous tous, concernant ta question. Qu'on soit bien clair, je ne nie pas l'intérêt des problèmes de langue. J'ai d'ailleurs dit à cet moment, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses que tu as dit. J'ai dit que ça représente, j'ai déjà vocabulaire mercantile, que ça représente le fond de promesse des écrivains africains. Ça a un intérêt à l'église, je ne dis pas. Et l'approche que j'ai adoptée, celle de la stylistique syrienne, qui, vous voyez, les marquages, les surmarquages, les démarquages, je trouve qu'on en fait trop. Il y a des concepts, comme des concepts d'africanisme. Je peux comprendre, par exemple, qu'on parle du camp anglais au Cameroun, qu'on parle du je sais pas moi quoi. Mais une analyse, par exemple, comme celle de Blacher, qui dit qu'un thème wolof, la juxtaposition d'un thème wolof avec celle du français, vise à mettre le lecteur français mal à l'aise. En quoi est-ce que moi, le Camerounais, je serais plus à l'aise qu'un lecteur français de la métropole? Parce que ça mettrait l'autre mal à l'aise. Moi, je ne comprends pas wolof. Donc, il y a des thèmes qui sont trop fédérateurs, ou bien font pas des sécurités linguistiques dans le roman du mouvement, et qu'on établisse un lien direct entre l'insécurité linguistique dans le roman et celle du mouvement. On oublie que pour une œuvre linguistique, même si ce sont des erreurs ou bien des lapsus forgés, il faut une sur-compétence linguistique. Donc, le mouvement n'est pas plus en sécurité, en insécurité linguistique que moi. Au contraire, donc il y a un certain forcing qui est dû aussi à ce que j'étais en train de dire des causes. Imaginons un match de football où Messi le marqueur, il marque un but, il pouvait même arrêter le ballon au vol. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de goût. Donc il y a un surmarquage. Les écrivains sont les critiques. Rares sont les critiques, ils ne sont pas écrivains. Les écrivains sont les universitaires. C'est eux qui dirigent les thèses, les mémoires, et c'est en général eux qui prescrivent des travaux. Donc c'est parce que c'est un phénomène porteur. Je ne nie pas l'importance du phénomène, mais il y a un surmarquage, c'est exagéré. Et les concepts, parfois, il faut qu'on y réfléchisse. Et pour la petite histoire, je vais dire que je constate personnellement que beaucoup de colloques prennent des distances par rapport aux communications qui parlent de l'Afrique ou bien des représentations linguistiques, parce qu'on en fait trop, il y a des concepts vraiment qui ne sont pas bien vissés. Donc je ne nie pas l'importance du phénomène. Voilà.
Ok, il me reste à vous remercier encore une fois, et à vous convier à l'apéro. Pardon. Bonsoir.
Soit des critiques de leurs propres œuvres. C'est peut-être à cause d'une. Parce qu'on ne peut pas l'élargir à tous les écrivains, mais un moment très précis, je pense. Et alors, vous avez parlé de Jean Junga, je suis très d'accord avec vous d'ailleurs, demain je vais. Bon, je suis censée être le théorique juste ça. Et je me dis, c'est peut-être. Bon, c'est très vrai pendant cette période des années 70 où on demandait. On convoquait les auteurs et les acteurs en lecture théâtre africaine à intervenir sur cela, évidemment pour comme réaction anti-colonialiste intellectuelle. Mais c'est plus vrai, alors là peut-être que je réagis un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est plus vrai par exemple aujourd'hui, par exemple Romain Morvéry s'en fiche complètement de théoriser sur son œuvre. Donc peut-être voilà, et il y a 20 ans de distance. Alors c'était nécessaire pendant les années 70, c'est plus nécessaire aujourd'hui, je trouve.
Voilà, excusez-moi, je peux te revenir, mais je peux. Ce que je veux dire, c'est que je suis bien d'accord, mais en ce qui concerne ce problème précisément, ce n'est pas un problème lié aux étapes. Donc, vous avez plusieurs auteurs. On sait par exemple que pour faire un essai, il faut un appareil méthodologique. En général, c'est quelqu'un qui fait un essai, c'est un professeur chevronné, ainsi de suite, ou bien quelqu'un qui a des études avancées. Alors, vous avez plusieurs auteurs. Yonor Amiano, par exemple, qui c'est propre à tout, je veux dire presque tous les écrivains, c'est pareil. Alors c'est eux qui dictent la manière dont il faut interpréter leurs œuvres. Même si ce n'est pas leurs œuvres qu'ils interprètent, ils font des commentaires sur l'ensemble du champ. Yonor Amiano, qui je crois qu'elle a une maîtrise, je ne sais pas, ce n'est pas pour mettre en cause sa légitimité, hein, mais elle fait des essais. Tienno Moulinembo, ils sont nombreux à faire eux-mêmes des essais. Je veux dire, à un certain moment, il faut laisser la place à la critique et non pas aux auteurs eux-mêmes de venir, après avoir produit des livres, de venir eux-mêmes les interpréter et fermer, clôturer toutes les interprétations.
Oui, mais la sociologie, c'est pas du tout des essais de littérature.
Oui, mais
ce qui l'intéresse, c'est la sociologie de l'immigration.
Oui, c'est la société de l'immigration, mais elle essaie de donner une interprétation à ses œuvres. C'est carrément mercantile.
Mais elle a le droit, c'est hors critique.
Je suis d'accord.
Tu ne peux pas obéir en fait.